faire une lecture avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 18 à 31. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 18 à 31. Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, et les puissances de Dieu. Aussi est-il écrit. Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence, il dit la parole de Dieu, des intelligents. Où est le sage? Où est le riche? Où est le contestataire de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, comme vous avez été appelés. Il n'a pas parmi vous ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles que ne sont pas, pour réduire à rien celles qu'ils sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus, qui, dès par Dieu, a été fait pour nous sagesse, et aussi justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Quelle parole merveilleuse que la parole de Dieu, quelle annonce merveilleuse et quel message que celui de la croix qui continue à nous lancer un appel. Et dans ce texte, il y a quelque chose qui doit forcément percuter puisque, bien évidemment, le message de la croix demeure le même et la réaction du monde, malheureusement aussi. Aujourd'hui, la prédication, le message de la croix reçoit à peu près le même traitement qui fut infligé à Jésus le jour de son humiliation et de son agonie, il nous dit le verset 18, n'est-ce pas? Le message de ce monde couvre de sarcasme et les hauts dignitaires le rejettent, mais par la prédication de Christ crucifié, la croix lance toujours un appel. C'est un peu comme un phare dans la nuit qui clignote. Il y a la tempête, le phare fait son travail. N'est-ce pas? Sommes-nous de ces chrétiens qui continuent de lancer un appel? Sommes-nous de ceux et celles qui vivent le message de la parole de la croix et qui encore aujourd'hui continuent de transformer ce message en une vie réelle, puisqu'il est question pour nous de ne pas marcher selon la pensée du monde, avec la sagesse du monde, puisque la parole de Dieu nous dit que la sagesse du monde est folie devant Dieu. Est-ce que nous arrivons véritablement à vivre selon la folie de la prédication de l'évangile? Ou est-ce que par moment nous retombons dans l'ancienne sagesse? Est-ce que par moment nous ne laissons pas la sagesse de ce monde venir nous dicter comment vivre notre vie chrétienne? Soit comme ça, soit pas comme ça. Prie un peu, pas trop quand même. Hein? T'as pas le temps, regarde. Dans le monde on dit que le temps c'est de l'argent, non? Et dans la parole de Dieu nous dit que le temps appartient à Dieu. C'est différent, non? Alors quelle est la sagesse que je vais suivre? Celle qui va me faire courir derrière quelque chose qui finalement ne reste qu'un bout de papier? Ou est-ce que je cours devant mon Seigneur et je m'incline en disant « Seigneur, parle. Seigneur, c'est toi que je désire davantage. C'est ta parole, c'est ton message. » Alors le texte dira qu'il est une folie pour ceux qui périssent, verset 18, « Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent. » Mais pour ceux qui sont sauvés, elle est puissance de Dieu. Puissance pour ceux qui ont été tirés du feu, comme des charbons ardents ont été tirés du brasier, tirés de la boue, tirés du péché, sortis et transportés dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu, pour ceux qui, enseignés par son Esprit Saint et pleinement satisfaits par sa grâce, elle est une puissance de Dieu. Qu'est-ce qu'est pour toi le message de la croix ? Si nous vivons avec une forme de honte et nous n'osons pas parler de la croix, c'est que la folie de ce monde nous a atteints. Mais malgré le fait que les uns et les autres peuvent parfois même se moquer de notre foi en Dieu, dire « comment tu peux croire en quelqu'un qui est mort ?» À la différence, lui, il est ressuscité. Lui, il est ressuscité. Il est assis auprès du Père. Il prie, il intercède, il agit, il répond. N'est-ce pas ? Il accomplit encore des miracles. Le message de la croix, c'est ça. Nous proclamons un Christ mort, oui, mais ressuscité. Il est ? Amen. Dans quelques semaines, le monde chrétien, et je dis bien le monde chrétien, va profiter d'un dimanche pour faire quoi ? Pour manger des œufs de chocolat ? Du lapin, oui, de l'agneau. C'est juste un moment convivial. Et on a oublié le sens premier parce que nous, nous sommes toujours prêts à faire la fête, mais le Seigneur a été prêt, lui, à mourir. Et si autant qu'enfant de Dieu, j'oublie le prix que ça a coûté mon salut et que je ne cherche dans ma vie que à faire la fête, mon frère, ma sœur, je me suis égaré. Je suis tombé dans la sagesse de ce monde et j'ai oublié la sagesse de Dieu. Et Dieu n'est pas venu me chercher dans le coton. Non, il n'est pas venu me chercher là où j'avais peut-être une ou deux cuillères en argent. Il est venu me chercher dans ma misère. Et qui peut dire autant ? Où est-ce que le Seigneur est venu vous chercher ? Dans la misère ? On peut se dire sauvé par grâce ? Amen ? Est-ce qu'on peut les uns et les autres se dire « Merci Seigneur parce que tu m'as sauvé ?» Parce que nous venons de prendre le pain et le vin. Et il ne faut pas oublier que ce n'est pas un symbole qui fait partie d'une cérémonie du dimanche. Parce que si c'était ça, autant arrêter. Si on est tombé dans une forme de cérémonie quelconque, frères et sœurs, dans des coutumes, on n'est pas mieux que tous les autres religieux. Et je vous rappelle que c'est les religieux qui ont mis Jésus à la croix. Par contre, si le pain, le vin nous ramène toujours à nous dire « Seigneur, donne-moi d'être digne de toi. Seigneur, que le message de la croix soit celui qui règne dans mon cœur. Je ne veux plus suivre les coutumes ni de ce monde, ni encore moins les coutumes de ma famille, de mon peuple. » Vous savez, il y en a des coutumes. On en a tous. Vous allez d'un côté à l'autre du monde, vous verrez, il y a tout le monde, ils ont des coutumes, des règles, des choses qui ont été instaurées. On ne sait pas par qui, mais quelqu'un les a instaurés. Mais moi, je crois en ce que Christ a instauré à la croix, le salut. Le salut pour ceux qui sont perdus, le salut pour ceux qui sont dans le désir de vouloir vivre l'éternité avec Dieu. Alors la parole de Dieu, il nous parle de ces décisions pour les Juifs et pour les Grecs. Pour eux, ben, Jésus, qu'est-ce qu'est ? Folie. C'est inconsidéré, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'est pour toi la mort de Christ ? Un moment, une partie de l'histoire, quelques chapitres dans la parole de Dieu, parce que pour certains c'est devenu ça, pas plus. Certains considèrent la parole de Dieu pour bien des textes comme une forme de mythologie. Noé, c'est de la mythologie. Qui est pour toi Noé ? Mais surtout, qui est pour toi Jésus ? Qu'est-ce qui représente Jésus ? Moi, je suis certain que si quelqu'un aujourd'hui, pour une raison quelconque, se trouvait dans une situation horrible, difficile, celui qui lui tendrait la main, qui le sauverait, mais je suis sûr qu'il le prendrait dans ses bras et le lâcherait plus. Non ? À moins que vous êtes ingrat, et ça, je le crois pas. On n'agirait pas comme un ingrat en disant « Ok, bon, t'as fait que ton boulot. » Non ? Parce que des fois, on entend ça. Ah, il a fait que son boulot, il est payé pour. Et après, on peut être offusqué, on peut être étonné quand même de ce type de discours. Mais que faisons-nous si nous nous détournons du message de la croix et si nous nous détournons de l'appel de la croix ? n'y a pas meilleur appel. Ce matin, je disais dans notre temps de prière avant le culte que Philippe est amené en Samarie et il prêche quoi ? Jésus. Il prêche Jésus. Et la parole est suivie de signes, de prodiges et de miracles. Amen. Et il continue à prêcher de Jésus. Et le Seigneur accompagne sa parole par des actions puissantes, au point de faire la différence avec un homme qui était là installé pignon sur rue depuis longtemps et qui se faisait appeler le grand. Mais devant le Seigneur, on est tous petits. Et lorsqu'il a été confronté à la puissance de Dieu, la véritable puissance de Dieu, eh bien, il a dû plier bagages. Et moi, je crois que l'ennemi a encore à plier des bagages. Amen. Est-ce que tu veux voir le Seigneur agir dans ta famille, dans ton quartier, que l'ennemi plie bagages? Alors parle de la croix. Amen. Parle de Jésus-Christ. N'aie pas peur. Ah, mais il est petit. T'inquiète pas. Il reçoit. Je me rappelle un jour dans une église, un petit qui a fait un dessin. Il avait entendu, il était là, mis à genoux sur sa chaise et il faisait un dessin. Sa maman, pour le tenir occupé, lui ramenait des crayons, un bout de papier. Et à la fin, l'enfant, il vient vers moi, il me tend le dessin et il avait dessiné le message. Ah, oh, c'était pas Picasso, hein. Mais, son dessin était clair. Un autre jour, un autre enfant, dans les écoles du dimanche, on lui parle de la mort de Jésus. C'est horrible, ça. Parlez-leur d'autre chose. Non, la croix, le sacrifice de Christ. Et cet enfant, il dessine Jésus à la croix avec un grand sourire. Et je lui dis, mais pourquoi Jésus sourit ? Parce qu'il est content, il est mort pour moi. Je crois qu'il a tout compris, le gamin, non ? Non ? Mais sommes-nous à vivre cette réalité de manière profonde ? De manière que rien puisse finalement venir nous enlever ce message dans notre cœur, que rien, aucune nouvelle, bonne ou mauvaise qu'elle soit, puisse nous faire douter un instant du fait que Christ et sa parole doivent vivre et brûler dans notre cœur. Parfois, on est des chrétiens, excusez-moi, je veux offusquer personne, mais je crois qu'il faut parfois, bien évidemment, dire certaines réalités. On devient des chrétiens du dimanche. La semaine, on est trop pris. Heureusement que le Seigneur ne fait pas comme ça. Parce que si dans la semaine, tu avais un pépin et le Seigneur te dit, moi, je suis le Dieu du dimanche, ben, tu serais mal. Tu peux prier Dieu à quelle heure ? De quelle heure à quelle heure ? Dis-moi. J'entends pas, je suis sourd. De quelle heure à quelle heure tu peux prier Dieu ? De quelle heure à quelle heure tu peux louer Dieu ? De quelle heure à quelle heure tu peux faire appel à Dieu ? Toute la journée, alors que Dieu nous garde de devenir des chrétiens du dimanche. Mais que Dieu fasse que dans notre cœur, sa parole continue de retentir et que nous puissions être nous-mêmes des moyens de communication de ce message qui doit se être proclamé, puisque la parole de Dieu nous dit qu'il nous a envoyés. Allez ! Faites des nations. Ah ! Et comment voulez-vous faire des disciples si on ne leur parle pas de l'essentiel ? C'est la croix. Folie pour les uns, non ? Mais pour nous, puissance de Dieu. Béni soit le Seigneur pour la puissance de Dieu. Vous savez, si on regarde dans l'histoire de l'Évangile et dans l'histoire même des assemblées de Dieu en France, comment ça a commencé ? Par un homme qui est arrivé et qui ne devait même pas rester en France. Je me trompe ? Comment il s'appelait ? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, vous avez encore des journaux à l'entrée. Ils sont gratuits. Prenez-les, lisez-les. C'est intéressant de savoir où sont nos racines. Et qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il prêche ? Il va pas. Alors, il est anglais, hein. Il va pas parler du pudding. Hein ? Il va pas parler des recettes. Il va pas dire que l'Angleterre, elle est plus forte au foot que la France. Non ! Il va parler de quoi ? Jésus. Et il va annoncer quoi ? La croix. Et qu'est-ce qui s'est produit ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Amen. À l'île de la Réunion, notre frère qui est arrivé là-bas, qu'est-ce qu'il a prêché ? Les fruits de l'île de la Réunion, ils sont meilleurs que les fruits... Non, de quoi il a parlé ? Et pourquoi Dieu s'est servi d'hommes simples ? Parce que c'est ainsi que Dieu a prévu. Et si Dieu l'a fait avec eux, est-ce que Dieu ne voudrait pas le faire aussi avec toi ? Oui ? Mais qu'est-ce qui te reste à faire ? Qu'est-ce qui nous reste à faire ? Parce que je ne mets pas à côté, je ne dis pas « allez-y ». Non, non, qu'est-ce que nous devons faire ? Continuer de propager l'appel de la croix, mais en le vivant. Parce que je peux dire aux autres ce qu'ils ont à faire, mais si je ne le vis pas, je ne le présente pas de la bonne manière. Quand Jésus parlait de l'amour, il le montrait. Et quand Jésus il a parlé du sacrifice, il a montré ce que c'était le sacrifice. Alors, est-ce que dans mon cœur, je suis prêt, moi aussi, à montrer de l'amour, être prêt au sacrifice ? Le premier, ça va. Le deuxième, donnez-moi du temps, je dois me préparer. Hein, on est prêt toujours, on est tous amour. Non ? On est tellement amour que dans certains lieux, au lieu de faire que deux bises, on en fait trois. On est plus amour que les autres. Et si vous allez dans certains d'autres endroits, c'est quatre. Alors là, ça devient vraiment du violon, hein ? Mais lorsque notre foi elle sera attaquée, sommes-nous prêts à rester à genoux ? Lorsque l'ennemi viendra essayer de mettre la zizanie dans nos familles, dans les couples, est-ce que nous restons à genoux ? Est-ce que l'ennemi cherchera à semer la zizanie dans l'église de Jésus-Christ ? Est-ce que nous serons de ceux qui restent à genoux ? Parce que c'est là que le Seigneur nous attend. Vous savez, on en a déjà parlé, mais quand vous prenez l'épi de blé, et la zizanie, parce que le mot d'origine, c'est pas ivré, c'est zizanie. Hein, ça explique tout de suite le sens. Quand il arrive à maturation, le blé se plie parce qu'il est plein. La zizanie, elle reste bien debout. Pourquoi ? Parce que c'est une coquille vide. Que Dieu nous garde, au jour du Seigneur, d'être trouvé comme une coquille vide, avec un aspect hein, de bon blé, mais en réalité, bon pour le feu. Mais que le Seigneur nous donne, frères et sœurs, d'avoir cette humilité, de laisser le Seigneur faire mûrir nos cœurs. Et comment ça mûrit ? Comment ça grandit ? Comment ça pousse ? On a besoin, chacun d'entre nous, que d'abord, ça commence par cette graine qui accepte de mourir. La parole de Dieu dit que si la semence ne meurt pas, et ne porte pas de fruits. De quelle mort la parole de Dieu nous parle ? Ah oui, Jésus est mort, mais toi et moi, nous aussi, nous devons mourir à l'ancienne nature, à l'ancienne vie, à la sagesse d'autre temps. Nous avons besoin d'être revêtus de la sagesse de Dieu, de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu, parce que l'amour du monde, c'est que de la séduction. Mais lorsque l'amour de Christ saisit notre cœur, nous voyons la parole de Dieu d'une manière différente. Zacharie chapitre 12, verset 10. Regardez ce texte. « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils porteront son deuil comme on porte le deuil d'un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui. » Aussi amèrement que sur un premier-né. Waouh ! Tôt ou tard, le monde devra se tourner. Tôt ou tard, le monde devra accepter. Même ceux qui aujourd'hui refusent, ceux que Dieu a choisi, son peuple, à un moment ou à un autre, ils seront face à une réalité, frères et sœurs. Mais pour nous qui sommes déjà, qui avons compris, qui nous avons saisi, que nous avons accepté la parole du Seigneur, il est question pour nous d'être ce peuple élu qui marche non pas avec un orgueil humain, mais avec une reconnaissance grande et véritable. Je ne sais pas si ça vous arrive encore d'imaginer juste un instant Jésus à la croix. Je ne sais pas si on pourrait aujourd'hui encore, après des années de conversion, soutenir le regard et voir Jésus à la croix. Ce serait impossible. Et après on se dit, mais les disciples ils sont restés au loin. Toi, tu aurais pu être là, au pied, en regardant Jésus comme ça, en disant « ouais, eh ben ouais, hein, ça n'a pas marché. Hein. » Mais qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Si le message de la croix, si cette parole, elle a commencé tout doucement à s'enfoncer dans tes habitudes, je voudrais te dire, fais le vide. Si tu as couvert ce zèle du premier amour par d'autres choses qui ne sont pas inscrites dans la parole de Dieu, mon frère, ma sœur, ce n'est pas le vide-grenier. C'est demande au Seigneur vraiment de tout balayer. Parce que si ce n'est pas bon pour toi, ce n'est pas bon pour les autres. Il faut demander au Seigneur encore ce matin de faire le vide dans nos cœurs. Seigneur, je ne veux rien d'autre que toi. Rien d'autre que toi. Je me rappelle de ce retour qu'on avait de témoignages de nos frères et sœurs qui avaient à un moment été persécutés. Ils avaient tout perdu. Ils étaient dans les forêts, cachés dans les forêts. Et finalement, on a pu avoir des missionnaires de chez nous qui sont allés les voir, des frères qui sont partis aller les rencontrer. Les frères de l'AEP, et on dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Il dit, on a tout perdu, mais donnez-nous des Bibles. Sur combien de choses aujourd'hui on place le regard et on les veut? C'est toujours particulier quand on sort avec les enfants. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Hein. Les enfants, ils ont un sentiment particulier qui est celui de croire que les parents, ils ont un fond de caisse sans fin. Moi, j'en avais un qui disait tout le temps, « Papa, tu peux latcher. Papa, tu peux latcher. » Il voyait une voiture, « Papa, tu peux latcher. Papa, tu peux latcher à la maison. » J'ai dit, « Oh, à force d'atcher, atcher, atcher, il n'y a plus rien. » J'ai dit, « Quand tu seras grand, t'as qu'à les atcher toi-même. » Et quand vous lui donnez une petite pièce, il pense qu'il va pouvoir acheter le magasin de bonbons, et qui revient avec un bonbon, il est déçu. Il dit, « Papa, tu m'as arnaqué. » Mais avec le temps, il est obligé d'apprendre la valeur. Et si bien évidemment, au début de notre conversion, on a le sentiment qu'on n'a même pas fini de prier que Dieu déjà a donné. Hein ? C'est magnifique ça. Profitez. Ça ne dure pas longtemps. Ce n'est pas méchant. Mais à un certain moment, le Seigneur veut qu'on mette des racines. Il faut qu'on aille plus en profondeur. Il faut qu'on aille plus loin avec lui. Moi, je n'ai pas du tout la main verte. Mais pas du tout. Vous me donnez une plante, je sais comment la faire mourir. Et un jour, j'ai installé, je voulais faire plaisir à ma mère, elle avait préparé des boutures de roses. Et je voulais les installer pour lui faire plaisir. Parce que la fois d'avant, j'étais passé avec... la tondeuse, et j'avais tout rasé au fond, il n'y avait plus rien. Donc ma mère, elle est arrivée, elle était légèrement vénère, mais légèrement. Hein. Donc je me suis dit, je vais réparer mes dégâts. Et donc j'ai mis les roses et tout, et vas-y que j'arrose avec le tuyau du puits, vous savez. Et ma mère, elle arrive doublement vénère. Qu'est-ce que tu fais? Je dis, ben j'arrose. T'es en train de les noyer. Il ne faut pas, c'est comme ça. Tu mets un peu d'eau et après, il faut les laisser qu'ils mettent des racines et que les racines aillent en profondeur. Parce que de cette manière-là, elles iront chercher l'eau où il y en a et toi, tu n'as pas besoin de les arroser. Quand le Seigneur permet des moments de sécheresse dans ta vie, c'est parce qu'il veut que tu mettes des racines plus profondes. Parce que ça serait simple pour le Seigneur de t'arroser, non? Il y a des régions en France, elles sont arrosées continuellement. Rigolez pas. Parce que de l'autre côté, on pourrait dire qu'il y a des régions où il n'y a pas beaucoup d'arrosage, donc il faut aller en profondeur. Hein ? Mais ce que je veux dire par là, frères et sœurs, dans les moments de notre vie, Dieu veut que le message de la croix reste quelque chose que nous vivons au quotidien. Parce que lorsqu'on le vit au quotidien, nous vivons aussi la puissance du message de la croix. Si tu veux que le cœur de ton mari, le cœur de ton épouse, le cœur de tes enfants soit transformé, vis le message de la croix. Amen. Enracine ton cœur dans le message de la croix. Enracine ta vie dans la parole de Dieu. Et là, tu verras la puissance de Dieu agir. Tu ne vas rien comprendre parce que ce n'est pas avec la compréhension humaine. Mais tu ne pourras que dire, c'est la main de l'Éternel. Amen. C'est la main de l'Éternel. Alors dans ce texte, il nous dit au verset 24, mais pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Qui est prêt ce matin à dire, Seigneur, je veux, Seigneur, ta puissance. Oh là. Seigneur, je veux ta sagesse. Parce qu'après, ça continue. Il y a autre chose à demander. Parce que la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu, excusez-moi, la puissance, ce n'est pas pour que tu ailles bien tous les jours. Ah non, mais moi, je n'ai pas signé pour ça. Depuis que je suis converti, j'ai plein de combats. Mais parce que tu dois pouvoir expérimenter la puissance de Dieu. Si tout va bien, à quoi ça te sert? Non? C'est comme celui qui a un kit de réparation pour ses roues de vélo, les roustines. Vous vous rappelez de ça? Maintenant, on ne les répare plus, les vélos. On jette, on en achète un neuf. Ah ben oui, c'est la consommation. Mais dans le temps, moi je me rappelle, j'avais des pneus, c'était que des roustines. Maintenant, il n'y a plus de clous sur la route. Sauf si vous venez à l'église et le chantier, ils ont laissé un clou, hein, frère, désolé. Mais il est question pour nous, frères et sœurs, de ne pas avoir la puissance de Dieu pour la garder dans un tiroir. Tu n'as pas une Bible pour la mettre sur ta table de nuit comme si c'était un moyen de bénédiction. Ce n'est pas un gris-gris, la parole de Dieu. Si tu veux véritablement expérimenter cette grâce de Dieu, tu as besoin bien évidemment de la sagesse de Dieu. Et parce que tu as reçu la sagesse de Dieu, tu recevras aussi la puissance de Dieu. Et lorsque tu vas prier, ben, le Seigneur va agir au-delà de tes attentes. Tu ne sais pas comment Dieu va faire, mais tu vas mettre une confiance simple. Simple. Lorsque vos enfants prient à midi pour le repas, comment ils prient? Simplement. Et généralement, ils prient quand ils ont déjà l'assiette devant. Mais ça vous est déjà arrivé de prier alors que vous n'avez rien devant vous? La prière n'est pas la même, croyez-moi. Quand vous dites, Seigneur, j'ai rien dans les placards, la prière n'est pas la même. Quand vos enfants viennent et ils n'ont pas de chaussures, la prière n'est pas la même. Quand tu viens de perdre ton travail, la prière n'est pas la même. Lorsque quelqu'un de ta famille ou toi-même t'es à l'hôpital, ta prière n'est pas la même. C'est là que ta prière prend une proposition, prend une force, prend une puissance, prend un zèle qui est différent. Là, tu es prêt à dire, Seigneur, je passerai le temps qu'il faut à genoux, mais je ne te lâcherai pas tant que tu m'es béni. Amen. Et nous nous sommes habitués à la prière qu'on fait quand on a déjà les choses devant le nez. Alors s'il fallait qu'à un moment Dieu nous les retire, ah non frère, dites pas ça. S'il vous plaît. Mais moi, les plus grands miracles, je les ai vécus comme ça. Quand on était dépourvu de tout et on a vu la gloire de Dieu s'accomplir parce qu'on n'avait que la parole. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux dire? Seigneur, ta parole. Seigneur, ta grâce. Je m'appuie sur toi, Seigneur. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais tu vas le faire, Seigneur. Seigneur, je ne sais pas comment tu vas intervenir, mais tu vas intervenir. Et je crois qu'encore ce message, il doit retentir dans notre cœur, il doit brûler. La croix n'est pas un objet de déco. Aujourd'hui, certains la portent au cou, même s'ils ne croient pas au Seigneur. Ils viennent là avec des croix kilométriques. Il y en a qui utilisent la croix selon leur propre désir, leur volonté. C'est un moyen pour dire non, tu vois. Mais la croix, ce n'est pas ça. J'aimerais avec vous comprendre pourquoi. Pourquoi le Seigneur a décidé de faire ainsi. Connaître Dieu tel qu'il est révélé dans sa parole, c'est être rendu sage à salut, nous dit la parole de Dieu. Notre vision de Christ par rapport à Dieu est peut-être une grande chose, mais la vision que Dieu a de Christ par rapport à son peuple est une chose encore plus grande. Et ce matin, j'aimerais dire au Seigneur, Seigneur, fais-nous grandir. Non ? Ce qui est important, ce n'est pas notre estimation de la grandeur de Dieu, mais c'est l'estimation de Dieu qui est plus importante. Car par sa grâce toute puissante, Christ a fait pour nous des choses particulières. Et la première, c'est que Christ s'est fait sagesse pour notre intelligence. Le fait d'être sage vient plus du caractère que des pensées. Si vous pensez être sage à cause des pensées, ça c'est Confucius. Il est mort, il est enterré, il est devenu poussière. Et sa sagesse, elle est finie dans les petits bonbons ou les petits biscuits chinois, vous savez que... Voilà. En France, c'est les Malabar. Ben oui, non ? Il est question pour nous de dire, Seigneur, tu nous as donné la capacité de comprendre les choses spirituelles. Et il veut nous faire abonder dans la sagesse, dans la sienne. Éphésiens chapitre 1, verset 7 et 8. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. En qui nous les avons ? En Christ. Mon frère, ma sœur, si tu as besoin de sagesse, la parole de Dieu dit de la demander parce que Dieu est prêt à donner. Alors, c'est quoi la sagesse ? C'est être sage, être tranquille, être calme. On dit aux enfants, sois sage. Comment dire à un enfant, sois sage ? C'est lui dire, renonce à ta personnalité. Sois sage. Moi, les miens, j'avais beau leur dire, sois sage, ça ne marchait pas. Le mot sage, ça ne veut pas dire la même chose pour les uns et pour les autres. Mais de quelle sagesse la parole de Dieu nous parle ? Si ce n'est agir, penser, voir et parler comme Christ parlerait, agirait, dirait et verrait les choses. Il est question pour nous de dire, Seigneur, change notre cœur. Il peut nous remplir de sa sagesse. Colossiens chapitre 1, verset 9. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Amen. Alors je vous assure et je vous rassure, l'apôtre Paul n'avait pas trouvé un bonbon à donner aux chrétiens pour qu'ils deviennent sages. Non. Il leur indiquait la manière de devenir sage et le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Parce que lorsque nous oublions cette crainte, ce saint respect de Dieu, frères et sœurs, notre sagesse est devenue folie. Folie contre Dieu. On devient la colérique, on dit à Dieu, tu dois me donner, Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, donne-moi ça. Et oh, Dieu n'est pas ton serviteur, il n'est pas ton esclave. Dieu est Dieu. Et du respect pour Dieu. Approche-toi de Dieu avec humilité. Et dis, Seigneur, si c'est ta volonté. Alors la parole de Dieu nous dit de faire attention à nos actions, nos réactions. Il arrive par moments qu'on peut être en colère, on peut être triste, on peut être amer. Mais moi je crois que même là, Dieu est capable de changer toutes ces choses-là. Mais on a besoin de revenir à genoux. Je discutais cette semaine avec un frère, il m'a appelé, il avait un souci. Et je lui ai dit quelque chose et il m'a dit, deux jours après il m'appelle et dit, j'ai passé une nuit terrible, mais Dieu m'a parlé. Il dit, j'ai vraiment demandé, j'ai crié à Dieu, j'ai demandé pardon, Seigneur. Et à fur et à mesure, l'amertume, la colère est partie. Et après, le Seigneur m'a donné une parole. Et cette parole m'a permis de faire la paix avec l'autre personne. Frères et sœurs, ce n'est pas avec l'amertume dans le cœur qu'on peut faire la paix avec les autres. Hein. Ce n'est pas avec du vinaigre qu'on attire les mouches. Hein. Non ? Si on veut demander pardon à quelqu'un, on dit, oh, allez, je te demande pardon. Ça donne envie, hein. C'est magnifique. La douceur en chair en os. Par contre, si finalement on prend conscience que nous nous sommes mal comportés et qu'on est prêt à s'humilier et dire, écoute, je te demande pardon, j'ai mal agi. Je peux vous assurer que certainement l'Esprit de Dieu agit dans le cœur de l'autre pour dire moi aussi. Et la parole de Dieu nous dit que là, Dieu est glorifié. La sagesse de Dieu, la bonté de Dieu. C'est folie pour le monde. Quand quelqu'un te demande ta veste, donne-lui aussi ton manteau, dit la parole de Dieu, non ? Allez-y, dans le monde, ils vont vous dire quoi ? Ni la veste, ni le manteau. Rentre chez toi, je te donne rien. Et toi, comme enfant de Dieu, tu dis, Seigneur, te dis de le donner. Ben, donne, t'inquiète pas. Il va te donner mieux, non? Il n'a jamais laissé mourir personne de froid. Il n'a jamais laissé mourir personne de faim. Le Seigneur a toujours pris soin de ses enfants, n'est-ce pas? Et là, c'est là que nous expérimentons la sagesse de Dieu, la grâce de Dieu. Parce qu'on a été prêt à accepter ce que le Seigneur nous a demandé. Il y a la sagesse, on va plus loin, il y a la justice pour notre cœur. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Amen. Qui a besoin encore de la justice? Dans son cœur. Pas la justice de ce monde. Abraham, il aurait pu dire plein de choses, mais un instant. Abraham a été parfait. Il a fait des erreurs, Abraham. Waouh, comment est-il possible? Le père de la foi, il s'est planté lui aussi. Alors quand nous demandons à Dieu justice, soyons aussi prêts à accepter que Dieu fasse justice aussi dans notre vie, parce que nous aussi, on n'a pas été justes. Et là, nous demandons, Seigneur, je te prie, fais justice, mais avec amour, Seigneur, fais-lui du bien comme tu me ferais du bien. Parce que si tu es dur avec les autres, attends-toi que Dieu soit dur aussi avec toi, hein, tu seras mesuré. Il est question aussi de sanctification. Jean chapitre 17, verset 19, Jésus dit, et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. La vérité. Est-ce qu'on est prêt à accepter la vérité? Ouais. Si elle va dans mon sens, si elle me plaît, si elle est gentille, hein? Si elle me caresse dans le sens du poil, je vais vous dire quelque chose peut-être qui va vous choquer, mais même pas. Vous me connaissez. Moi, je ne crois pas aux prophéties qui nous disent « Vas-y, t'es bien, t'es super, t'es nickel, Dieu est avec toi, tu vas y arriver, tout va bien. » Trouvez-les dans la parole de Dieu. Il y en a un qui a commencé comme ça et Dieu a envoyé un autre prophète pour lui dire « Ce que tu racontes, c'est pas vrai. Mais tu seras testé sur ce que tu viens de dire. » Quand Dieu parle, c'est pour nous dire « Attention, tu es en train de t'égarer. Attention, tu as pris un mauvais chemin, mais, si tu reviens, Dieu ouvre toujours une porte. Dieu est toujours celui avec la main tendue à nous permettre de revenir de nos erreurs. Et nous, parfois, on prend des paroles et on dit même « Dieu m'a dit ». Donc, je prends cette direction « Dieu m'a dit ». Dieu m'a dit « Un jour, tu te marieras avec une femme ». Heureusement. T'as raison. Aujourd'hui, ça ne serait plus la même prophétie, peut-être. Hein? Mais frères et sœurs, moi, je ne crois pas que le Seigneur va me dire « Tu vas te marier avec une femme », parce que ça devrait partir d'une forme de logique, quand même, si on veut rester... hein? Mais le Seigneur saura me dire aussi « Quelle femme ?» Non? Le Seigneur va me confirmer que c'est la bonne personne, parce que des femmes dans le monde, il y en a combien? Faites un calcul. Allez. 1 million, 2 millions, 3 millions, un peu plus quand même, hein, parce qu'autrement, ça serait la guerre. Hein. Non? Et ça va dans l'autre sens. Hein, ça va dans l'autre sens. La question est pour nous de dire, Seigneur, quand toi tu parles d'une manière précise. Alors garde-moi, Seigneur, de chercher des paroles qui viennent tout simplement me réconforter dans une position personnelle. Garde-moi, Seigneur, et donne-moi sagesse pour reconnaître quand c'est toi qui parles et quand c'est l'ennemi qui parle. Parce que vous savez, l'ennemi, c'est aussi parler. Un jour, une sœur m'appelle, me dit « Pasteur, j'ai rêvé de quelqu'un avec qui j'ai trompé mon mari. » Ah ben, je peux vous dire qu'en tant que pasteur, on en entend des choses. Hein, et des fois... Le téléphone, il risque d'être légèrement modifié dans sa forme initiale. Il dit, est-ce que vous pensez que Dieu me dit que je dois retourner vers lui? Je dis, tu sais, Satan connaît la Bible et Satan est capable de te faire croire que ce qu'il te dit, c'est vrai. Est-ce que tu es prêt à suivre Satan? Ah ben non. Je dis, alors tu ne peux pas suivre ta pensée. C'est gros comme une maison. Mais croyez-moi, si vous voyez combien de personnes, malheureusement, tombe dans ce type de discours, vous direz, mais c'est pas possible quand même, on est en 2025. On a tous une Bible. Oui, mais tout le monde ne la lit pas. Si ce matin on faisait un sondage, je ne le fais pas. Faites-le dans votre cœur. On serait étonné de voir combien ne lisent pas la Bible, de combien ne prennent pas du temps dans la prière, de combien n'interpellent même pas le Seigneur pour prendre une décision. Et après, on s'étonne pour ce genre de propos. Non, je ne suis pas étonné, je ne peux pas être étonné. Parce qu'à un certain moment, malheureusement, c'est la sagesse du monde, puisque tu l'as eu en vision. Mais la parole de Dieu me dit que je me dois de marcher dans la sanctification, dans la vérité, dans la sainteté. Nous avons été sauvés à la façon dont... J'ai noté ça, je vous le lis. Nous n'avons pas été sauvés à la façon dont un avare sauve son argent, mais plutôt comme un père avisé sauve son fils en lui donnant tout ce qui le rendra capable de gagner sa vie. Dieu veut que tu sois capable de savoir saisir ce qui est bien et ce qui est mal. Dieu veut que tu sois capable de saisir quand c'est lui qui parle et quand c'est l'ennemi qui parle. Jésus dira, je suis le bon berger, quand mes brebis entendent ma voix, ils me reconnaissent, ils me suivent. Donc à un moment, ils savent aussi reconnaître la voix de celui qui n'est pas le Seigneur. Non ? Alors à partir de là, je sais quand je dois sortir de la bergerie et suivre le Seigneur, et quand j'ai intérêt à rester dans la bergerie, à regarder que personne ne s'introduise par la petite fenêtre, parce que ça, c'est le voleur qui vient pour détruire, pour égorger, pour faire du mal. Et combien aujourd'hui suivent tout et n'importe quoi ? Oui, mais c'est sur Internet, vous comprenez, frère. Dernièrement, une jeune fille me disait qu'elle s'est fait baptiser par quelqu'un qui a une église sur Internet. Ah, il a des fidèles sur Internet. Je lui ai dit, Jésus, il est né dans la mauvaise période. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Si Jésus était né aujourd'hui, ah, il aurait une chaîne YouTube. You Jesus. La chaîne You Jesus. Non ? Mais voulez-vous dire que le cœur des hommes n'aurait pas été différent ? Ce qu'on a besoin, frères et sœurs, nous aussi, encore une fois, pour rester dans l'équilibre, c'est de dire, Seigneur, amène-nous et délivre-nous de tout ce qui n'est pas bon et amène-nous dans l'assurance qui est dans le fait que toi, tu sois à nos côtés. Cette promesse, celle de Jésus qui dit, voici, je suis avec vous tous les jours, cette promesse peut remplir notre cœur de joie et d'assurance. Il prépare une délivrance pour nous, que nous soyons des pèlerins, même peut-être éprouvés, ou des soldats qui combattent pour la vérité. Je ne sais pas ce matin si tu te sens plus pèlerin ou soldat. Mais je voudrais te dire que le Seigneur voudrait de faire de toi un pèlerin-soldat. Les deux. Pourquoi ? Parce que sur ces terres, on n'est que pèlerin. Soldat, parce qu'il y a un combat. Et le combat, comme je disais vendredi, c'est déjà avec nous-mêmes, avec notre chair. Et ce combat, la seule manière de le remporter, c'est en se présentant à la croix. Rappelez-vous de ce moment dans le désert quand les serpents venaient mordre le peuple. Qu'est-ce qu'ils devaient regarder pour être sauvés ? Qu'est-ce que nous devons regarder pour être sauvés ? Parce que l'ennemi fera tout ce qu'il peut pour nous mordre. Dis non, frère. Il va essayer de te mordre dans tes pensées. Il va essayer de te mordre dans tes convictions. Il va essayer de te mordre et de mettre du poison là où toi tu as dit, ma foi, elle est en Christ. Ok, je vais te tester. Regardez dans la parole de Dieu. Hein. Du premier au dernier, ils ont tous été testés. Hein. Jésus lui-même, après son baptême, magnifique le baptême de Jésus. Qui voudrait un baptême comme celui de Jésus ? Il y en a qui ont pris l'avion pour aller se faire baptiser là-bas. Mais il n'y a pas eu la voix du ciel, il n'y a pas eu la colombe, il n'y a eu rien. L'eau. Donc pas besoin de partir là-bas, on aura des baptêmes le mois prochain ici. Dieu soit loué. Amen. Mais lorsque tu te baptises, lorsque tu donnes ton cœur au Seigneur, tu dois savoir aussi que finalement celui qui avait des droits sur ta vie les a perdus et qui veut les récupérer. Et si demain il pouvait, en attendant, parce que souvenez-vous du texte qui dit « Satan se retira pour chercher une meilleure occasion ». Il est revenu 3 ans plus tard. Il est patient, Satan. Et à quel moment Jésus fut tenté à nouveau ? Dites-moi. Lorsqu'il était à la croix. Mais si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends, prouve-le. Et la question était de lui faire faire quelque chose qui aurait été contraire à la volonté de Dieu. Et ce que l'ennemi voudrait te faire faire quand les choses elles deviennent corsées dans ta vie, c'est que tu fasses le contraire de ce que Dieu attend de toi. Et si même c'est dur d'attendre, la réponse de Dieu, même si c'est dur d'attendre la direction de Dieu, même si c'est dur d'attendre le moment où Dieu te dira d'agir, fais-le parce que c'est en obéissant que tu verras la gloire de Dieu. Jésus a attendu. Il a donné son dernier souffle. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Est-ce que ça se serait produit si Jésus était descendu de la croix ? Certainement non. Et comment peux-tu attendre que les choses se produisent dans ta vie si tu fais les choses à moitié ? Alors sommes-nous prêts à dire, Seigneur, ce matin, je me donne entièrement à toi. Mes notes, je les ai presque pas vues parce que finalement, ce n'est pas le message que j'avais préparé. Mais je pense que le Seigneur est en train de nous dire quelque chose ce matin. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons avec un cœur partagé. Mais entier. Si tu prends ton engagement à te baptiser, fais-le, va jusqu'au bout parce que l'ennemi va essayer de te démolir, mais toi, va jusqu'au bout. J'ai vu des personnes arriver à l'eau du baptême, aux eaux du baptême, et être délivrées, être guéries. Une sœur qui avait fait, avant de se convertir, était voyante, avait un cabinet de voyance. Et lorsqu'elle a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tout le monde lui est tombé dessus. Son mari lui a fait des histoires pas possibles. Physiquement, elle était malade. Elle est terminée avec des béquilles. Et au jour de son baptême, elle était quasiment en fauteuil roulant. Et les médecins lui ont dit, vous ne marcherez plus jamais. Les frères, ils l'ont pris, ils l'ont mis dans l'eau. Quand elle est sortie de l'eau, elle a jeté ses béquilles et elle est partie sur ses pieds. Parce que c'est la folie de la prédication. C'est Christ. Amen. Qui veut voir la puissance de Christ ? Alors inclinons nos cœurs devant sa croix, devant le message de sa parole. Seigneur, encore ce matin, Seigneur, quels qu'ils soient les sujets qui peuvent interpeller les uns les autres, nous te prions, Seigneur, encore ce matin, fais-nous, Seigneur, être de ce peuple qui résiste, Seigneur, à genoux, dans ta parole, Seigneur, qui s'attache, Seigneur, aux valeurs de ta parole, non pas aux philosophies de ce monde, Seigneur. Nous voulons pas que les autres nous disent qu'on est sage, qu'on est bien, mais nous voulons que nous soyons, Seigneur, au reflet de la sagesse qui vient d'en haut, de la grâce qui vient d'en haut, de l'amour qui vient d'en haut. Seigneur, fais de nous ce peuple que tu as choisi. Seigneur, garde-nous de tomber dans les pièges de l'ennemi. Seigneur, aide-nous à renoncer, Seigneur, à toutes les idéologies de ce monde. Seigneur, nous ne voulons pas voir l'Église comme une démocratie, mais comme une théocratie, c'est toi qui commandes. Seigneur, devant toi, moi, je n'ai rien. Seigneur, je ne suis rien. Sans toi, je n'ai pas de valeur. Sans toi, je ne suis que poussière. Seigneur, si tu n'avais pas saisi mon cœur, si tu n'avais pas saisi notre cœur, Seigneur, nous serions encore embourbés dans nos péchés. Alors, Seigneur, garde-nous de retourner dans nos vieilles demeures, dans nos vieux péchés, dans nos vieilles habitudes. Seigneur, que le message de la croix brûle dans nos cœurs. Que le message de ta parole, Seigneur, embrase, Seigneur, nos vies, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur, communiquer ce message, Seigneur, avec simplicité, mais avec puissance. Seigneur, encore ce matin, je veux te prier pour tous ceux et celles qui passent par des temps de combat, qui se tiennent à genoux. Seigneur, fais éclater ta gloire. Seigneur, interviens, que ce soit, Seigneur, sur la santé, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau, Seigneur, des relations dans la famille, dans le couple. Seigneur, pose ta main, Seigneur. Transforme, Seigneur, ces situations, Seigneur, en occasion de dire « Dieu a posé sa main ». Ce n'est que la main de l'Éternel. Seigneur, nous te rendons grâce. gloire et honneur, aujourd'hui et éternellement. Amen.